There is no alternative.
Quel est vraiment le problème?
Qu'ils fassent des choix.
Un problème économique, mais aussi un problème moral.
You'd rather have the poor poor, provided the rich are less rich.
Non.
C'est la crise. Bonjour à tous, chers auditeurs, pour ce deuxième numéro de Tina, There is no alternative. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui dans notre émission l'un des économistes actuels les plus influents et à titre personnel, une grande source de réflexion et d'inspiration pour le social-démocrate que je suis. Bonjour Thomas Piketty.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente brièvement pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes chercheur en sciences sociales, notamment en économie et plus particulièrement en économie publique. Vous êtes spécialiste des inégalités économiques et de la fiscalité. Votre thèse, vous l'avez préparée chez nos confrères de l'ENS Ulm ainsi qu'à la London School of Economics. Et elle s'intitule « Essai sur la théorie de redistribution des richesses ». Elle a été immédiatement remarquée dans le monde des sciences économiques. Après avoir enseigné au MIT, être devenu chargé de recherche au CNRS, vous avez enseigné à l'EHESS et vous êtes actuellement professeur à l'École d'économie de Paris que vous avez contribué à fonder. Vous êtes également un chercheur engagé, réputé proche du Parti Socialiste. Vous avez été le conseiller économique de Ségolène Royal et vous avez signé l'appel des économistes en faveur de François Hollande avec, entre autres, Philippe Aguillon, Gilbert Sett ou Elie Cohen. Last but not least, vous avez été le récipiendaire de plusieurs prix, le prix du meilleur jeune économiste de France en 2002 et en 2013, le prix Irieu Janssen, j'espère que je n'ai pas massacré le nom, décerné par la European Economic Association. Alors, vous venez aujourd'hui à l'ENS de Lyon dans le cadre d'un séminaire pour vous exprimer à propos de votre dernier livre qui est paru en 2013, Le Capital au XXIe siècle. Il s'agit d'une œuvre colossale dans tous les sens du terme puisqu'elle a nécessité un travail extrêmement long et qu'elle est extrêmement importante. Elle retrace la dynamique des inégalités de richesse dans 20 pays et sur 3 siècles. C'est une œuvre qu'on pourrait qualifier de carrefour entre sciences économiques, sociologie, sciences politiques, histoire. Voilà, vous mettez en perspective les phénomènes économiques à très long terme. Et je voulais d'abord vous demander si vous vous définissez comme un économiste au sens strict du terme.
Non, moi je me vois, comme vous l'avez dit, comme un chercheur en sciences sociales. Je pense que les frontières entre l'économie, la sociologie, l'histoire sont beaucoup plus floues que ce qu'on essaye de faire croire parfois. De tous les côtés d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que chacun a des bonnes raisons de vouloir se séparer des autres. Les économistes en particulier aiment bien faire croire à une scientificité unique au sein des sciences sociales, ce qui est évidemment une gigantesque blague. Mais bon, les historiens, les sociologues aussi parfois aimeraient bien dire « Ah mais nous ce qu'on fait ça n'a rien à voir ». Bon, chacun a un peu tendance à défendre ses frontières. Moi, je pense que ces querelles de clochers n'ont à peu près aucun intérêt et empêchent d'avancer sur les questions. Et je pense que ces questions de dynamique historique des richesses, des revenus et des patrimoines sont des questions qui appartiennent à tout le monde, que les historiens et sociologues n'auraient jamais dû laisser aux économistes, qui d'ailleurs, pour l'essentiel, ne s'en sont pas occupés parce que l'histoire ne les intéresse pas. Donc, pour finir, c'est un peu un grand no man's land dans lequel, voilà, c'est trop historique pour les économistes, trop économique pour les historiens, personne ne le fait. Donc moi, j'ai essayé de rassembler des sources historiques depuis une quinzaine d'années sur ces questions. C'est vraiment ça qui m'a occupé. Je précise d'ailleurs au passage que je n'ai jamais été conseiller ni de Ségolène Royal, ni de qui que ce soit. Je me suis engagé publiquement pendant les élections parce que ça me permet d'expliquer que je pense que les chercheurs en sciences sociales, bon, doivent principalement être chercheurs en sciences sociales, mais doivent également, je pense, s'engager dans le débat public. Donc voilà, quand il y a des élections présidentielles, je m'engage. Mais enfin, c'est pas... Je pense que l'engagement politique, d'abord pour un chercheur, c'est d'abord ces livres qui sont des... Voilà, comme les articles, comme des prises de position, qui sont aussi des actes politiques. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de science pure, éthérée, en tout cas, pas en sciences sociales. Voilà.
Voilà. Alors... Sur le contenu du livre plus précisément, je voulais d'abord... vous faites de nombreux constats dans le livre, et notamment un très important, qui est que le patrimoine des Français, les richesses, ne se portent pas si mal, puisque, vous le notez dans le livre, on retrouve un niveau proche du début du siècle, de la belle époque. Le patrimoine des Européens atteint 6 années de production nationale. Alors pour nos auditeurs, la production nationale, le PIB français, est de 2000 milliards d'euros par an, donc je vous laisse faire le calcul. Et c'était 2 ou 3 années de production nationale durant les 30 Glorieuses. Je voulais vous demander, que va entraîner un tel retour en force comme ça du capital? Quels sont les risques à avoir un patrimoine qui excède autant la production?
Non, d'abord, en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire, il faut mieux avoir beaucoup de patrimoine que beaucoup de dettes. Donc, on vit dans une époque où on nous parle beaucoup des dettes privées, publiques, mais il faut bien avoir en tête, et c'est une des bonnes nouvelles de mon livre sur le capital au XXIe siècle, c'est qu'en fait, on possède beaucoup plus de capital, de patrimoine que de dettes. Et même, lorsqu'on calcule la richesse totale des Français ou des Européens d'ailleurs, parce que c'est un phénomène de reconstitution de patrimoine qui est beaucoup plus large que le cas simplement de la France, on se rend compte qu'on possède aujourd'hui l'équivalent de 6 années de production nationale, y compris après avoir retiré toutes nos dettes. Et pour retrouver ce niveau de prospérité patrimoniale relativement à la production, il faut remonter à la Belle Époque. Et alors pourquoi tant de temps ? Peut-être la notion économique, pour le coup, qu'il faut avoir en tête, qui permet de comprendre tout ça, c'est que si vous épargnez 10% de votre revenu chaque année, oui, comme un pays, pour accumuler l'équivalent de 5 années de revenus en patrimoine, il faut 50 ans. Mmh. 50 fois 10% égale 5. Et donc, c'est très simple comme principe, mais ça permet de comprendre pourquoi l'histoire est importante. C'est-à-dire pourquoi, en gros, il a fallu un demi-siècle pour se remettre des chocs liés aux guerres mondiales, où on a de très fortes destructions de patrimoine en France et en Allemagne, et aussi des États qui consomment toute l'épargne du pays pour financer la guerre. Donc c'est, ouais, voilà, gigantesque boucherie, gigantesque destruction, qui fait que l'Europe se retrouve dans les années 50-60 avec un stock de patrimoine beaucoup plus réduit que d'habitude. Donc il n'y a pas à avoir une nostalgie pour cette période-là. Donc ce grand retour du patrimoine dans nos sociétés a quelque chose de naturel, et d'inévitable et même de souhaitable. Simplement, il pose des questions d'inégalité, de répartition. Donc en particulier, là, les pays riches européens sont riches, mais leurs gouvernements sont très pauvres. Oui. Et puis à l'intérieur des ménages privés, certains sont très très riches, d'autres sont très très pauvres. Donc disons, ça pose des problèmes de répartition de ces patrimoines qu'on croyait, pendant les Trente Glorieuses, avoir dépassé, où on s'imaginait, mais de façon un peu naïve, qu'on avait atteint un capitalisme sans capital, oui, où seul comptait l'inégalité salariale. C'est peut-être cette illusion qui, aujourd'hui, nous fait qu'on a du mal à penser la suite.
Et justement, ce capital, est-ce que vous pourriez nous en dresser une brève géographie ? Qui le concentre, justement, puisqu'il n'est plus également réparti qu'il possède en gros en France en ce moment ?
Alors d'abord, la nature du capital. Sur les 6 années, l'équivalent de 6 années de revenus qu'on a, on a la moitié c'est de l'immobilier, la moitié c'est du patrimoine financier. Juste pour fixer les ordres de grandeur, la production par habitant dans un pays comme la France aujourd'hui, c'est 30 000 euros par an. Donc si chacun avait le même revenu, chacun aurait 2500 euros par mois, 30 000 euros par an. Bon, alors certains ont beaucoup moins, certains ont beaucoup plus. Ça, c'est la moyenne. Quand on dit le patrimoine, c'est 6 années de revenus, ça veut donc dire 6 fois 30 000 euros, 180 000 euros. Donc si chacun avait le même patrimoine, chacun posséderait 180 000 euros, la moitié en immobilier, la moitié en actifs financiers. Alors évidemment, ce n'est pas ça la géographie concrète de la fortune, parce que vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas 6 années de revenus en patrimoine, qui ont un mois d'avance sur leur compte en banque de salaire, oui, maximum. D'autres qui n'ont que des dettes, des étudiants par exemple, ou des personnes qui se sont endettées et dont les investissements n'ont pas marché. Et puis vous avez d'autres qui ont beaucoup, beaucoup plus que 180 000 euros. Donc le patrimoine est beaucoup plus concentré que les revenus. Si on veut retenir un ordre de grandeur, les 10% qui possèdent le plus de patrimoine possèdent l'ordre de 60% du patrimoine total. D'accord. Alors que sur les revenus, les 10% qui ont le plus de revenus, par exemple qui ont le plus de salaires, vont avoir 25-30% du total. Donc le patrimoine, disons, est deux fois plus concentré que les revenus. Maintenant, il y a un siècle, il était trois fois plus concentré que les revenus. C'est-à-dire que c'était 90%. Oui. Du total pour les 10% les plus riches en patrimoine. Donc, aujourd'hui, la réalité est toujours nuancée. C'est-à-dire qu'à la fois, le patrimoine est très, très inégalement réparti, mais il y a quand même une classe moyenne patrimoniale qui fait que le patrimoine est un peu plus diffusé qu'il y a un siècle.
Et ça, ce serait l'État-providence, les bienfaits de la redistribution
Alors, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le produit d'une évolution naturelle, dans le sens où, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, on assiste en France et dans les autres pays pour lesquels on a des données, à une spirale inégalitaire, c'est-à-dire que le patrimoine est de plus en plus concentré, ou en tout cas, il se stabilise à un niveau de concentration extrêmement élevé. Donc, il n'y a pas de tendance naturelle avant la Première Guerre mondiale. Donc, la première explication pour cette déconcentration du patrimoine, c'est d'abord les chocs liés aux guerres qui ont détruit tout simplement des fortunes importantes. Donc, c'est vraiment une version tragique de la redistribution. Alors ensuite, il y a des institutions publiques plus positives que les guerres, l'État-providence, l'impôt progressif, qui ont permis, en gros, de remplacer une hyper-concentration patrimoniale par une classe moyenne patrimoniale, bon, mais dont il ne faut pas non plus exagérer l'importance. C'est-à-dire que, vous voyez, on est passé, pour les déciles supérieurs, pour les 10% les plus riches en patrimoine, de 90% de détention du patrimoine total à 60%. Donc, disons, c'est de l'ordre, il y a 20-30% du patrimoine national qui, maintenant, est possédé par des classes moyennes, disons, des personnes qui vont posséder 100 000, 200 000, 300 000 euros. Donc, ça passe notamment par le logement, l'accès au logement. Alors la question, c'est est-ce que cette évolution est inéluctable, irrémédiable? Est-ce qu'on va s'arrêter là? Est-ce qu'on va avoir une diffusion croissante du patrimoine? Parce que bon, pour les 50% de la population les plus pauvres en patrimoine, ils possèdent à peu près rien aujourd'hui comme il y a un siècle. Donc est-ce que la diffusion du patrimoine va se poursuivre dans leur direction? Ou bien est-ce qu'on va au contraire assister à une reconcentration du patrimoine? C'est une question extrêmement complexe, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, et moi je ne prétends pas du tout être capable de prévoir là en 2030 où on en sera exactement. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on reprendre le cours de cette histoire de façon détaillée, en reprenant vraiment chaque événement, chaque élément de la chronologie, des comparaisons entre pays, c'est encore le meilleur guide qu'on ait pour la suite.
Oui. Justement, comment permettre à ces gens qui n'ont pas de patrimoine de s'en constituer, hein? Quels pourraient être les outils à disposition des pouvoirs publics pour...
Au XXe siècle, ce sont beaucoup les guerres qui ont fait table rase du passé. Heureusement, il y a des institutions publiques dans le domaine social, dans le domaine éducatif, dans le domaine fiscal, qui peuvent permettre de mieux diffuser le patrimoine. Donc, dans le domaine fiscal, il est évident que si vous avez un système fiscal qui, du fait de la concurrence entre pays, repose de plus en plus lourdement sur les salariés, en particulier les salaires bas, moyens, les impôts sur la consommation. Donc en gros, si on concentre de plus en plus la charge fiscale sur ceux qui sont captifs, qui sont moins mobiles que d'autres internationalement, bon, ça ne va pas aider à la constitution de patrimoine pour ces personnes-là. Je pense qu'il y a des réponses qui ne peuvent être qu'européennes, mais il y a quand même des réponses qui peuvent être faites en France. C'est-à-dire que, bon, par exemple, prenez la taxe foncière. On parle beaucoup de l'impôt sur la fortune comme impôt sur le patrimoine. Mais en fait, le plus gros impôt sur le patrimoine, en France comme dans les autres pays, c'est la taxe foncière. Et qui, pour le coup, est peut-être trop lourde pour ceux qui sont en voie d'acquisition d'un patrimoine et pas assez pour ceux qui sont déjà multipropriétaires. Concrètement, vous payez autant de taxes foncières en France, par exemple, quand vous êtes endetté jusqu'au cou. Donc, si vous possédez un appartement qui vaut 300 000 euros, mais que vous avez un emprunt de 290 000 euros, en fait, votre richesse nette, c'est 10 000 euros. Vous ne possédez rien. Vous remboursez en intérêt autant qu'un locataire paye en loyer. Pourtant, on vous fait payer autant de taxes foncières que quelqu'un qui aurait hérité de l'appartement de 300 000 euros et qui n'a rien à rembourser. Ou qui l'a acheté il y a très longtemps, qui a fait une plus-value, qui n'a plus rien à rembourser depuis longtemps. Donc là, on peut, je pense que l'impôt sur le patrimoine net, c'est-à-dire vraiment la totalité de ce que vous possédez moins vos dettes, est un bon outil pour essayer de réguler la répartition des patrimoines. Il ne s'agit pas de rendre égalitaire la distribution des patrimoines, mais au moins de permettre aux nouveaux venus de rentrer dans le jeu. Puis il y a tout le problème de la pauvreté publique, hein, la pauvreté des États en Europe, la crise de la dette publique, et qui contraste singulièrement avec l'extraordinaire richesse des patrimoines privés. Et donc là, ça pose toute la question comment on sort de ça en Europe.
Alors, on reviendra justement à ces questions de redistribution par la fiscalité, mais je voulais faire référence à quelque chose que vous mentionnez dans l'ouvrage. Vous faites référence au père Goriot et au personnage de Rastignac, qui juge meilleur pour lui, pour sa situation, d'épouser quelqu'un susceptible de lui fournir un revenu plutôt que de travailler. Et est-ce que vous pensez que là, on est quand même ici dans l'un des temples, des nombreux temples de la méritocratie en France, est-ce que vous pensez que le travail est en danger, la méritocratie est-elle en danger face aux revenus du capital qui sont plus productifs?
Oui, alors Rastignac, pour finir, il est étudiant en droit, il essaye de réussir ses études de droit, comme vous ici à l'ENS. Bon, c'est vrai qu'en même temps, il a des hésitations, parce que Vautrin lui décrit les différentes carrières possibles s'il réussit ses études de droit, donc s'il réussit les plus beaux concours de l'époque, donc c'est pas l'agrégation, ça aurait pu être des concours d'enseignement. En l'occurrence, lui, il cherche à réussir ses examens de droit pour devenir procureur du roi, pour devenir grand avocat. Et Vautrin lui décrit de façon très précise les revenus qu'il peut espérer atteindre de cette façon. et il constate que ça restera dans tous les cas modeste par rapport au train de vie extraordinaire auquel il pourrait accéder s'il acceptait de se marier avec mademoiselle Victorine, qui est au bout de la table, qui n'est pas très mignonne et pas particulièrement attirante, mais qui peut quand même lui permettre d'accéder à un niveau de vie. Alors, à condition tout de même d'assassiner son frère, parce qu'elle est pour l'instant fille illégitime. Alors, c'est là que Rastignac, finalement, préfère en rester à ses études, après beaucoup d'hésitations. Alors, ce qui est formidable dans la littérature du XIXe siècle, c'est la précision extrême de Balzac, de Jane Austen, sur les montants de fortune. C'est-à-dire, on sent qu'ils connaissent les centiles mieux qu'un militant d'Occupy Wall Street, et ils savent tout, et surtout ils en connaissent toutes les implications pour ces vies. Donc moi, j'ai voulu essayer de voir qu'est-ce qui avait vraiment changé depuis cette époque-là. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui une forme de retour de l'héritage, alors qui n'est pas exactement la même situation qu'à l'époque du Père Goriot. C'est-à-dire, pour dire vite, le volume total de l'héritage est pas loin de retrouver le volume de l'époque, pas toujours relativement à une année de revenus, parce que tout ça, il faut remettre par rapport au revenu moyen de l'époque, évidemment. Mais relativement à une année de revenus, on n'est pas loin de retrouver le même volume d'héritage, mais avec une répartition différente. C'est-à-dire, en gros, maintenant, vous avez plus de moyens ou moyens gros rentiers et moins de très très gros rentiers. Ouais. Donc les deux filles de Goriot, pour fixer les ordres de grandeur, leur héritage, le père leur partage 1 million de francs or de l'époque, chacune à 500 000 francs or. C'est comme si elles avaient aujourd'hui une vingtaine de millions d'euros chacune. Donc des héritages de 20 millions d'euros qui vous permettent vraiment, pour le coup, d'arrêter vos études à l'ENS tout de suite, enfin de vivre de ça. Vous voyez, si vous avez un rendement de 4 ou 5% par an avec 20 millions d'euros, vous avez 1 million d'euros par an pour vivre. Ça court pas les rues aujourd'hui. C'est vrai vous en trouvez, hein, vous en trouvez dans la presse, etc. Mais il n'y en a pas assez pour nourrir un univers romanesque. Ça ferait rire tout le monde, un roman où il y aurait des héritages de 20 millions d'euros à chaque coin de rue. Par contre, aujourd'hui, vous avez davantage, au 19e siècle, des personnes qui vont hériter de 1 500 000. Et là, vous en avez plus. C'est-à-dire, moi, je calcule que pour les générations nées dans les années 80, vous allez avoir à peu près 10% de la population qui va hériter en total sur sa vie, en donation et succession, de l'ordre de 700-800 000 euros en moyenne. C'est-à-dire l'équivalent de ce que la moitié de la population... Enfin, en fait, même un peu plus que ce que la moitié de la population gagne par son travail. Voilà, en gros, une vie au SMIC... Une vie au SMIC, ça vous rapporte, et si vous gagnez 15 000 euros dans l'année, sur 50 ans, ça vous rapporte 750 000 euros. Mais donc, bon, qu'importe le détail des chiffres, mais les ordres de grandeur sont significatifs. C'est-à-dire que là, on vit dans un monde, pour les générations nées dans les années 80, où 10% de la population va recevoir en donation de succession l'équivalent de ce que 50% de la population gagne par son travail. Et ça, c'est une forme d'inégalité, alors qui est moins extrême que celle de Vautrin et Rastignac, parce que c'est vrai que même quand vous recevez 700 000 euros, ça ne vous suffit pas pour vivre, il faut mieux passer le concours de l'ENS ou aller à Sciences Po en même temps pour compléter tout ça. Mais en même temps, c'est quand même... c'est plus que ce que la moitié de la population gagne avec son travail. Donc c'est une forme d'inégalité qui remet en cause notre idéal méritocratique des Trente Glorieuses de façon quand même assez radicale, parce que pour le coup, dans les Trente Glorieuses, c'est-à-dire pour les générations nées dans les années 30, 40, qui auraient dû hériter dans les années 50, 60, 70 et qui en fait n'avaient pas grand-chose à hériter dans l'après-guerre, le pourcentage de la population héritant l'équivalent d'une vie au salaire minimum était tombé à 2%. Oui. Donc ça, c'est pas pareil d'avoir une société où vous avez 10% de la population qui hérite de l'équivalent d'une vie au SMIC ou de l'équivalent de 2%. Donc il y a un retour de l'héritage qui est une vraie réalité, qui n'est pas exactement mademoiselle Victorine et Rastignac, mais qui est quand même très différent des Trente Glorieuses. Donc ce qu'on a là pour le début du XXIe siècle, c'est ni le XIXe siècle ni les Trente Glorieuses, c'est quelque chose qui est un peu entre les deux, et qui ne correspond pas en tout cas à l'idéal qu'on s'était fait de progrès indéfini, social, démocratique, économique.
Alors, en lien avec justement ce que vous venez de dire, je voudrais faire un petit point de théorie économique, puisque notre émission a aussi cette ambition-là. Vous avez étudié à la suite de grands auteurs tels que Ricardo, Marx et plus proche de nous Kuznets, les inégalités économiques. Et vous avez notamment montré que ce qu'on appelle la courbe de Kuznets était en réalité, n'avait aucun fondement scientifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous êtes arrivé à cela ?
Oui, alors Kuznets, il écrit dans les années 50 aux États-Unis, et ce qu'il dit à l'époque est vrai. C'est-à-dire qu'il constate une très forte réduction des inégalités de revenus aux États-Unis entre, très précisément, 1913 et 1948. Alors, il démarre en 1913 parce que l'impôt sur le revenu aux États-Unis est créé en 1913, en France c'est 1914. Et avant cette date, bon, on a très peu de données sur les revenus. On a des données sur les patrimoines que j'utilise dans mon livre, mais Kuznet se concentre sur les revenus. Donc il démarre en 1913. Il a cette très forte réduction des inégalités entre 1913 et 1948. Et lui-même, il est conscient que les guerres jouent un choc énorme, la Grande Dépression des années 30 joue un rôle énorme dans cette réduction des inégalités dans cette période. Mais c'est vrai qu'il ne peut pas s'empêcher, pour finir, de transformer ça en 1955 en une supposée théorie universelle, avec l'idée qu'on a donc une courbe où les inégalités pendant les premières parties de l'industrialisation, donc mettons au 19e siècle pour les États-Unis, s'accroissent, et puis ensuite dans la première partie du 20e siècle diminue de façon naturelle. Et c'est tout est dans le naturel, c'est-à-dire que ce dont on se rend compte maintenant, vu d'un demi-siècle après Kuznet, c'est qu'en particulier aux États-Unis, on est reparti dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en gros la part des 10% des revenus américain dans le revenu national a retrouvé son niveau d'avant, au début de la courbe de Kuznet, des années 20. Et donc, il n'y a plus du tout cette courbe. Disons, ce qui est frappant dans le cas de Kuznet, c'est que c'est quelqu'un au départ qui est plutôt rigoureux, qui a une éthique de chercheur, qui est arrivé aux États-Unis, qui est né en Ukraine, qui arrive aux États-Unis, qui fait ses études d'économie, qui invente les premiers comptes nationaux américains, la première étude historique sur les inégalités. Bon, c'est quelqu'un qui a fait un vrai travail de chercheur et qui est tout à fait respectable. Mais c'est vrai que dans l'ambiance de la guerre froide, il ne peut pas s'empêcher, et surtout ses collègues et le monde universitaire, les organisations internationales, peuvent pas d'empêcher de trouver cette bonne nouvelle de réduction naturelle des inégalités tellement bonne que
voilà,
qu'on est prêt à oublier les hypothèses et oublier les circonstances historiques et en l'occurrence les chocs très violents qui ont rendu cette évolution possible. Et donc ce que je retiens de ça, c'est que c'est vrai que la politique est partout lorsqu'on parle de répartition des richesses. Et bon, moi, je prétends pas être capable de m'en abstraire complètement, mais disons la seule façon d'essayer de s'en sortir un petit peu, c'est de multiplier les expériences historiques, de multiplier la longueur des périodes qu'on étudie, et puis voilà, d'essayer de. Bon, lui, Kuznet, il avait un pays sur 35 ans. Là, dans ce livre, grâce à de très nombreux chercheurs, Emmanuel Saez, Tony Atkinson, Facundo Alvarado, Fabien Dell, je ne peux pas les citer tous, on a 30 pays sur deux siècles. Donc ça permet quand même de multiplier les points de vue mieux que ce que Kuznet pouvait faire.
Oui. Alors, justement, en lien avec cet ouvrage Le Capital au XXIe siècle, vous, depuis déjà plusieurs années, vous appelez à une réforme profonde du système fiscal. Je le rappelle aux auditeurs, vous avez publié un livre co-signé justement avec Camille Landais et Emmanuel Saez que vous venez de mentionner, et qui s'appelait La Révolution fiscale, qui est paru en 2011, si je ne me trompe pas. Vous y émettiez des propositions très audacieuses pour réformer la fiscalité de notre pays, que vous jugez à la fois complexe et injuste, car elle favorise les contribuables les plus aisés. Vous avez souvent parlé de fiscalité régressive plutôt que progressive. Et notamment, vous proposiez la fusion de l'impôt sur le revenu, de la CSG, de la prime pour l'emploi, du prélèvement libératoire et du bouclier fiscal en un impôt unique. En ces temps de débats sur d'éventuelles réformes fiscales, pouvez-vous nous expliquer en gros en quoi consisterait cet impôt, quels seraient ses taux, ses assiettes
Alors d'abord, je veux dire qu'il y a beaucoup de choses en matière fiscale qu'on ne peut faire qu'en les envisageant au niveau international. Et pour le coup, dans mon livre Le Capital au XXIe siècle, je parle très peu, je ne parle pas du tout de la question de la CSG, de l'impôt sur le revenu, parce que c'est plutôt un enjeu, disons, franco-français, important, hein, je vais y venir, mais moins important la question de la coopération fiscale en Europe et internationale. Enfin, concrètement, sans cette coordination, les possibilités d'imposer le patrimoine en Europe, les possibilités de mettre fin aux paradis fiscaux sont beaucoup plus limitées si on s'y prend à un seul pays. Alors, il n'en reste pas moins qu'il y a des choses qu'on peut faire tout seul et qu'il ne faut pas non plus, comme on le fait trop souvent, utiliser l'Europe comme une excuse pour ne rien faire, d'autant plus que pour finir, l'Europe, elle est notamment le produit des grands pays qui le composent. Et c'est d'abord parce que la France et l'Allemagne n'ont pas vraiment fait de proposition pour rendre l'Europe le plus démocratique et d'aller vers plus d'union politique et fiscale qu'on en est là aujourd'hui sur la crise de la dette. Donc c'est quand même ça, le sujet qui me préoccupe le plus. Il reste qu'il y a des choses qu'on peut faire au niveau de la réforme fiscale directement en France. Dans la proposition qu'on faisait en 2011 avec Camille Landais et Emmanuel Saez, il y avait plusieurs éléments, mais l'un des éléments, c'était de constater que on a besoin, quand on fait le choix comme la France le fait, de mettre en commun 50% des richesses produites chaque année sous forme d'impôts, de cotisations, de taxes diverses, il est absolument indispensable, si on veut maintenir le consentement citoyen à l'impôt, de faire en sorte que chacun comprenne le système fiscal le mieux possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, face à tous ceux qui voudraient démanteler cet état fiscal et cet état social, la réponse ne peut pas juste être de s'arc-bouter sur l'existant et de dire, écoutez, notre système fiscal et social a atteint un niveau parfait à la fin des Trente Glorieuses, ne touchons à rien, sinon c'est un démantèlement. Non, ce n'est pas vrai. On peut moderniser les choses sans les démanteler. Ouais. Et en l'occurrence, personne n'a rien à gagner, et certainement pas les plus modestes, à la complexité du système actuel. Donc très concrètement, on est le seul pays en Europe à ne pas être passé au prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu. On est passé au prélèvement à la source, évidemment, sur les cotisations sociales, la CSG. On n'aurait jamais pu créer la sécurité sociale en 1945 sans le prélèvement à la source. Oui. Si les gens faisaient leur chèque de cotisation avec un an de retard, ça ne marcherait pas. Donc il faut bien comprendre que ces questions d'impôt, c'est toujours plus que des questions techniques. C'est vraiment le consentement des citoyens à contribuer à un projet commun, aux charges communes, à la protection sociale qui est en jeu. Et en France, c'est vrai qu'on a contourné, on a beaucoup contourné la question de la modernisation de l'État, de son système fiscal, par les caisses de sécurité sociale qui, globalement, fonctionnent bien et sont un bon système. Mais le résultat, c'est que comme on a développé ces cotisations, ces prélèvements sociaux prélevés à la source, on n'a jamais été jusqu'au bout d'une modernisation de l'impôt sur le revenu prélevé, lui, au profit du budget de l'État. Alors avec parfois des conséquences totalement ubuesques, c'est-à-dire qu'on a ce système par exemple actuellement de prime pour l'emploi qui consiste à faire un chèque à 8 millions de salariés modestes en France pour leur rembourser avec un an de retard une partie de la CSG qui elle a été prélevée à la source un an plus tôt. Et donc le refus de moderniser le système et de rapprocher ou même de fusionner du point de vue du contribuable l'impôt sur le revenu, la prime pour l'emploi, les cotisations sociales, la CSG. Ce qui ne veut pas dire qu'on fusionne du point de vue des caisses de sécurité sociale. On peut parfaitement continuer d'affecter aux caisses de sécurité sociale les ressources dont elles ont besoin, d'affecter au budget de l'État les ressources dont il a besoin. Mais du point de vue du salarié, vous voyez que ça n'a aucun sens de commencer par réduire le SMIC net chaque mois 8% de CSG, bon, ça vous réduit quand même votre SMIC net assez sensiblement chaque mois. Et vous voyez bien que les fortes augmentations du SMIC des Trente Glorieuses, on risque de pas en voir de sitôt. Donc réduire comme ça le SMIC net chaque mois, ce n'est pas une bonne idée. Et ensuite, on vous rembourse une partie de la CSG qui avait prévu un an plus tôt, ça n'a aucun sens. Donc le premier objectif de cette simplification que je propose, c'est juste d'essayer de contribuer à réconcilier le salarié, le citoyen, l'impôt. Et je pense que la façon dont l'actuel gouvernement a non seulement repoussé toute perspective ambitieuse de remise à plat de nos impôts explique en partie le mécontentement énorme
les bonnets rouges et autres pigeons.
Voilà, les bonnets rouges et autres pigeons se nourrissent de cette absence de volonté de réforme. Alors après, utilisent des arguments où chacun défend ses avantages. Bon, c'est de bonne guerre. Je veux dire, le premier responsable, c'est d'abord le gouvernement qui n'indique pas de volonté claire de réforme et qui, dans certains cas, fait quand même exactement le contraire de ce qu'il avait dit. C'est-à-dire que augmenter la TVA qui va être augmentée là au 1er janvier après avoir dit pendant 10 ans dans l'opposition que l'augmentation de la TVA était la pire des politiques, c'est quelque chose qui pose problème. C'est-à-dire qu'en général, on croit s'en sortir sur les impôts en pariant sur le fait que personne n'y comprend rien et donc tout ça va finir par passer. Bon, mais il y a un moment, les gens comprennent, quoi. Et là, l'augmentation de la TVA, les gens voient que ce n'est pas du tout ça qui les avait fait voter pour Hollande. Jamais ça avait été évoqué, et même, enfin, ça avait toujours été évoqué comme la dernière des choses à faire. Donc là, il semble maintenant y avoir une volonté de remettre des choses à plat. Bon, pour l'instant, on ne voit rien de bien précis venir. Oui. Hein. Pour l'instant, la seule chose que le Premier ministre a confirmé, c'est qu'il y aurait bien la hausse de TVA au 1er janvier. Oui. Donc on a confirmé qu'on allait faire ce qu'on avait exclu avant les élections, et on n'a rien annoncé d'autre. Donc,
Alors, on parle un peu de fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG. Voilà, on a entendu Jean-Marc Ayrault prendre position pour et puis pas vraiment. Et vous pensez quoi de...
Pour l'instant, ils ont pris position sur rien du tout. Hein. Je pense que c'est très difficile maintenant. Les choses auraient dû être faites après, directement après les élections. Et surtout, il aurait fallu en parler avant les élections. C'est-à-dire que c'est très difficile en démocratie, tant mieux d'ailleurs, d'inventer des réformes sociétales importantes. Et le prélèvement à la source est une réforme sociétale importante. Quand Najat Vallaud-Belkacem parle de l'individualisation de l'impôt pour encourager le travail des femmes, c'est une réforme que moi j'en proposais dans notre livre de 2011 et qu'on propose toujours, bien sûr, mais simplement c'est une réforme sociétale importante. Vous pouvez pas, si vous n'en parlez pas avant les élections et ensuite que vous attendez un an et demi de devenir vraiment le plus impopulaire des gouvernements de la Ve République et qu'ensuite vous arrivez à tiens, au fait, on pourrait faire ça. C'est pas évident, hein, quand même. Hein.
Question de, oui, problème de timing.
De timing, puis de légitimité démocratique aussi, simplement. C'est-à-dire que ces choses-là, c'est pas comme ça. Moi, je doute assez quand même de la volonté. Je pense que beaucoup de ballons d'essai comme ça vont être envoyés pour voir. La plupart vont s'effondrer. Bon, j'espère quand même qu'à la fin, ils vont réussir à faire quelque chose.
Oui, ben, justement, alors, je voulais vous parler de cette proposition Najat Vallaud-Belkacem qui compte exploiter la fiscalité pour favoriser le travail des femmes. Vous êtes favorable ou à justement l'individualisation plutôt que la conjugalisation de... Puisqu'on est quand même l'un des seuls pays dans l'OCDE avec le Portugal et le Luxembourg à conserver ce type de...
Oui, je suis favorable, mais en même temps, je pense que c'est difficile de le faire sans une réforme d'ensemble. Sinon, vous faites des perdants à des niveaux de revenus où vous n'avez pas envie de faire de perdants. Et donc, si vous faites cette réforme toute seule, c'est vraiment, ça ne me paraît pas socialement et politiquement défendable, tout simplement. Donc, il faut... Je suis assez sceptique qu'on fasse cette réforme de façon isolée. Après, sur le fond, donc je rappelle les tenants et aboutissants très rapidement, c'est vraiment la question de la conjugalisation. Ce n'est pas la question de la familialisation, parce que le fait de prendre en compte les enfants, donc le fait que vous ayez des charges de famille, ça, c'est le cas dans tous les pays. Hein. Contrairement, on raconte beaucoup de bêtises à ce sujet. On dit, voilà, il n'y a que la France qui a un impôt sur le revenu où on prend en compte les enfants. Bon, c'est totalement absurde. Enfin, tous les pays, dans tous les pays, vous payez moins d'impôt sur le revenu quand vous avez 2-3 enfants que 0 enfant, ce qui n'empêche absolument pas le prélèvement à la source. Donc là, la question, c'est la conjugalisation, c'est-à-dire le fait que même en l'absence d'enfants, le fait d'être en couple, on a ce système du quotient conjugal qui donc, en gros, donc vous additionnez le revenu de l'homme et de la femme, ou des deux hommes ou des deux femmes, vous divisez par deux, vous mettez ça dans votre tranche d'imposition du barème, et à la sortie, vous remultipliez par deux l'impôt sur le revenu. Alors à quoi ça sert ce micmac de diviser et remultiplier par deux? Ça vous permet éventuellement de tomber dans des tranches plus basse, mais vous voyez bien que si jamais vous êtes dans un couple égalitaire où chacun gagne le même revenu, bah ça vous apporte rien, puisqu'en divisant par deux fois 1000 euros ou deux fois 2000 euros, bah vous arrivez exactement dans la même tranche, là où vous seriez arrivé tout seul. Donc en fait, ça réduit d'autant l'impôt que le couple est inégal. Concrètement, un homme qui a un salaire élevé et sa femme a un salaire beaucoup plus bas va payer moins. Mais par contre, ça veut aussi dire que si la femme se met à travailler davantage ou à trouver un emploi mieux rémunéré, elle va immédiatement être dans la tranche d'imposition de son mari. Donc d'où la remarque de Najat Vallaud-Belkacem qui est tout à fait juste, de dire si on veut encourager les couples biactifs et aider voilà, les femmes à rattraper leur mari ou les maris à rattraper leur femme dans certains cas, mais c'est plus rare, l'individualisation vaut mieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été adopté dans tous les pays d'Europe du Nord et aussi dans la plupart des pays d'Europe du Sud. Il y a quand même deux pays importants encore qui ont un système très proche du quotient conjugal français, qui sont l'Allemagne et les États-Unis. Oui. Donc c'est loin d'être négligeable. C'est un débat légitime. L'autre raison pour laquelle je suis pour l'individuation, c'est qu'il faut bien avoir en tête que vous avez la moitié des couples qui sont ni mariés ni pacsés, et qui néanmoins sont des couples. La moitié pratiquement des enfants naissent dans des couples qui sont ni mariés ni pacsés, et qui néanmoins sont des couples. Donc vous voyez, cette façon d'avoir des catégories d'impôts qui dépendent de façon fine du type de lien juridique dans un couple me semble simplement inadaptée. Inadaptée à la réalité actuelle.
Alors, dernière question pour terminer. On a beaucoup parlé du prélèvement à la source et notre dernière émission était sur la fraude fiscale justement. Et on se demandait avec mes camarades ce que le prélèvement à la source changerait en matière de fraude fiscale. C'est fraudable quand même le prélèvement à la source? Qu'est-ce que ça permettrait d'améliorer dans ce domaine?
Pour les salariés, le premier but, ce n'est pas tant lutter contre la fraude sociale, parce qu'il y a assez peu de fraude sur les salaires, proprement dit. C'est plus de simplifier la vie du contribuable en adaptant ce qu'il paye au rythme auquel son salaire change. Parce que là, vous vous retrouvez des fois à recevoir des chèques qui n'ont plus rien à voir avec votre situation présente. Donc, c'est juste que ce soit plus pratique pour le contribuable. Et puis aussi, d'un point de vue démocratique, que chacun puisse comparer sur son bulletin de salaire ce qui est versé pour la retraite, la santé, le budget de l'État. Je pense que c'est important. Si on veut préserver notre modèle fiscal et social européen où on mutualise quand même la moitié des richesses produites chaque année, il faut, enfin, les aspirations individuelles à plus de transparence sont légitimes, à plus de compréhension sont légitimes. Et on ne peut pas juste dire, voilà, tout ça est très complexe, mais vous inquiétez pas, ça marche bien. Parce que si on fait ça, je pense qu'on s'expose à des révoltes fortes et que, voilà, on a besoin de beaucoup de transparence. Et pour moi, c'est ça le premier objectif du prélèvement à la source et de ces réformes. Après, sur les revenus de patrimoine et les patrimoines, le prélèvement à la source au niveau des banques existe déjà. Bon, sauf que là, on a un problème, c'est qu'on est dans un espace économique européen avec des flux de capitaux parfaitement libres, mais sans aucune contrepartie en termes d'échange d'informations automatiques. Et voilà, on vit dans un pays où il est possible que le président de la République ignore que son ministre du budget est un compte à 2 heures de TGV ou 3 heures de TGV de Paris. Et une nanoseconde de courrier électronique. Et pourtant, visiblement, il y a un tuyau qui est bouché. Et il faut bien se rendre compte qu'il n'y a absolument rien qui a été fait depuis cette affaire qui l'empêche de recommencer aujourd'hui. Moi, je souscris tout à fait aux estimations qui ont été faites par Gabriel Zucman, là, dont vous évoquiez le livre la dernière fois, je crois, sur la richesse cachée des nations, où il dit, écoutez, il faut qu'on ait enfin une approche un peu plus rationnel de ce débat. Le secret bancaire, la fraude fiscale, ça rapporte à un pays comme la Suisse l'équivalent de ce que coûterait à la Suisse des droits de douane de l'ordre de 30% imposés par la France, l'Allemagne, l'Italie. Donc à partir de là, vous avez deux possibilités, quoi. Soit vous ne voulez pas faire des sanctions de ce niveau-là, mais dans ce cas-là, vous aurez toujours cette fraude énorme et vous aurez toujours des ministres qui, en toute impunité, peuvent continuer d'avoir un compte en Suisse, puisque la Suisse fera semblant d'accepter vos échanges d'informations, mais en fait, ils garderont des façons de conserver le secret bancaire, simplement parce que ça leur rapporte plus que la sanction. Soit vous admettez que voilà, il faut un langage clair de sanctions, et concrètement, ça veut dire que vous admettez que le libre-échange, en soi, c'est plutôt une bonne chose, mais vous ne pouvez pas avoir le libre-échange en échange de rien du tout. Oui. Et je pense que si on ne fait pas ça de façon posée et rationnelle, bien ça se passera, mais de façon moins posée et moins rationnelle, avec des risques électoraux très forts que dans tel ou tel pays, en France éventuellement un jour, on ait un repli national et des mouvements politiques proposant un très fort repli national qui finissent par l'emporter. Donc je pense qu'il est temps qu'on ait sur ces questions de fraude fiscale internationale, qu'on arrête de crier victoire à chaque seconde, mais qu'on ait une approche beaucoup plus rationnelle. Et voilà, combien ça rapporte aux pays qui pratiquent ça ? Ça rapporte beaucoup. Donc sans sanctions très précises et relativement élevées, hein, et en particulier de sanctions commerciales, on n'y arrivera pas.
Thomas Piketty, merci beaucoup. C'est l'heure. Merci beaucoup d'être venu dans notre émission. On vous souhaite le meilleur cet après-midi pour votre conférence à propos, on le rappelle, de votre livre « Le capital au XXIe siècle ». Merci beaucoup d'être venu dans « There is no alternative ».
Merci.
There is no alternative.
Quel est vraiment le problème ?
Qu'il fasse des choix.
Un problème économique, mais aussi un problème moral.
You'd rather have the poor, but all. Provided the rich are less rich.